La conférence d'aujourd'hui va être un petit peu la suite de celle que j'avais fait à l'Université catholique de Lyon, pour ceux qui avaient assisté, sur Harry Dickson. Et là, j'avais un petit peu fait des échappées sur Sherlock Holmes. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science de Sherlock Holmes. Alors, je vais commencer par un certain nombre de rappels pour mettre le vent en situation, et ensuite, je rentrerai, si j'ose dire, dans le vif du sujet. Je parie comme ça, c'est bon, là ? C'est pas mieux ? Je parie sans micro, non ?
On va changer les micros, mais c'est pas encore fait. Pour se régler pour mieux.
C'est bon comme ça ? Ouais, c'est un peu mieux. Bon, écoutez, on va faire avec. Bien, donc, je vais suivre le plan qui est indiqué ici. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais présenter l'auteur, qui est Arthur Conan Doyle, donc qui est écrivain, médecin, détective, amateur de spiritisme. Ensuite, je vous parlerai de l'écriteur des Sherlock Holmes. Et enfin, nous aborderons donc dans une troisième et plus importante partie, Sherlock Holmes et la science. Alors, dans un premier temps, Arthur Conan Doyle, c'est un écrivain qui effectivement est bien connu par les aventures de Sherlock Holmes, mais il a fait beaucoup plus que ça. Hein. C'est un écrivain extrêmement prolixe, extrêmement important. La chronologie de son œuvre et de sa vie se situe, vous le voyez, sur trois règnes. Le règne de la reine Victoria, puisque bien sûr il est britannique, hein. Le règne de la reine Victoria, le règne d'Édouard VII, donc le fils de la reine Victoria, qui a régné très tard, de même que le prince Charles aujourd'hui règnera certainement très tard s'il règne un jour. C'était le même cas de figure. Et puis ensuite le roi George V, très petite, une phase très faible. Enfin, une phase très faible pour la... Comment ? Ça n'a pas le son ? Bon, bah, je parle sans micro, allez. Ça va comme ça ? Ah, bah voilà.
Vous pouvez rester assis.
Et oups ! Non, non, c'est bon. C'est bon comme ça, là ? Super, là ? Vous m'entendez bien ? Non, moi j'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Bon, bah s'il fonctionne, c'est bon. Allez, on y va. Donc, la chronologie entre la reine Victoria, Édouard VII et George V, pour situer donc historiquement. L'époque à laquelle va écrire, ou durant laquelle va écrire Arthur Conan Doyle, c'est l'époque de la gloire de l'Empire victorien, qui s'étend, vous le savez, sur pratiquement les cinq continents. Hein. C'est ce qu'on appelait le siècle d'Albion, l'Empire britannique au XIXe siècle, donc un empire extrêmement étendu. Et on va retrouver des références à cet empire britannique dans l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, un petit peu dans les Sherlock Holmes. Mais il faut savoir qu'Arthur Conan Doyle lui-même, j'y reviendrai, est parti, s'est engagé dans la guerre contre les Bourgs, donc pour la défense de l'Empire britannique. Donc ça jouait un rôle important dans sa vie. Alors voici ici la guerre d'Afghanistan, qui s'est déroulée justement dans les montagnes afghanes. Montrer d'ailleurs que les Afghans de tout temps ont été de très grands résistants, ils ont été très coriaces. Puisque même à l'époque de l'Empire britannique, vous voyez, il y a eu des luttes, et le docteur Watson, qui est un personnage des aventures de Sherlock Holmes, qui est un personnage central, revient blessé de la guerre d'Afghanistan. Alors vous avez à gauche la gravure qui vous montre Watson sur le dos d'un de ses camarades, qui l'évacue du front, et vous avez une scène de la guerre anglo-afghane au centre, et puis dans un journal, Le Petit Parisien, donc... Une page qui rend compte de ces guerres qui ont lieu à l'époque victorienne. Alors si on regarde maintenant le paysage urbain, comme on dit aujourd'hui, ce paysage urbain, c'est un paysage assez contrasté, avec à la fois de la richesse et puis une misère atroce, qui a bien été décrite par exemple par Dickens, hein, au début de la, du règne de la reine Victoria, donc là c'est un petit peu postérieur, mais il y a encore des coins extrêmement sombres. Bien sûr, il y a l'ombre de Jack l'Éventreur qui rôde sur Whitechapel, hein, Jack l'Éventreur qui a été une des grandes péripéties de la criminologie victorienne. Et donc une société très inégale, on va en retrouver la trace dans l'œuvre de Conan Doyle et dans les Sherlock Holmes. Alors la vie d'Arthur Conan Doyle a été une vie très riche, sans entrer dans les détails, hein, et d'ailleurs je ne connais pas complètement sa biographie, je l'ai lu il y a quelque temps. Voilà, au centre vous avez une biographie qui était sortie chez Robert Laffont, qui est certainement la plus complète, qui est de John Dixon Kerr. Il y a une autre biographie qui est en anglais, donc pour ceux d'entre vous qui lisent couramment l'anglais, vous pouvez vous la procurer. Il s'est marié deux fois, hein, il s'est marié deux fois, donc sa première femme est décédée de la tuberculose, si mes souvenirs sont bons. Donc ensuite il s'est remarié, hein, et il a eu une vie extrêmement riche en péripéties, comme écrivain, comme praticien, on va le voir, et puis également il est parti à l'étranger. Alors, il a eu un certain nombre de professeurs, puisqu'il a été médecin, qui l'ont marqué et dont on retrouve la trace dans les aventures de Sherlock Holmes. En particulier le docteur Bell, le fameux docteur Bell, qui avait la réputation auprès de ses étudiants d'être capable, d'après des indices extrêmement faibles, de reconstituer une maladie et de porter un diagnostic. Donc ça va marquer profondément Arthur Conan Doyle, et il va élaborer son personnage de Sherlock Holmes en partie en se calant, si j'ose dire, sur le caractère, sur le personnage du docteur Joseph Bell. Donc vous avez à droite Conan Doyle et Joseph Bell, hein, The Real Sherlock Holmes, qui était d'ailleurs édité en français. Donc vous pouvez l'acheter en français, c'est un travail qui a été publié, donc qui montre l'évolution qui s'est faite dans la création du personnage de Sherlock Holmes et surtout l'importance du docteur Bell. Il y a une autre œuvre aussi qui est sortie d'un écrivain anglais qui a été traduite en français sur ce personnage. Alors il y a un autre personnage qui a probablement aussi servi à Arthur Conan Doyle. C'est Henry Little John, qui était médecin de la couronne et qui avait une très haute autorité en matière d'autopsie et de médecine légale. Et d'ailleurs, le docteur Bell était, semble-t-il, son assistant. D'après ce que l'on sait, il était probablement inférieur au plan hiérarchique de ce fameux Henry Little John. Donc, Conan Doyle est médecin. On en retrouve la trace, par exemple, dans ses mémoires. Hein, mémoire d'un médecin autour de la lampe rouge à droite, qui a été publié en français, donc vous pouvez acheter dans une édition dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra, tout à fait caractéristique. Donc autour de la lampe rouge, il y a des souvenirs qui l'ont marqué. On retrouve d'ailleurs des aventures de médecins, des contes de médecins, comme le docteur Noir, hein, à gauche. Donc il y a toute une série d'aventures de médecins. Mais il y a également des séries des contes qui portent sur la boxe, des contes qui portent sur d'autres professions. Alors voilà donc l'aventure militaire, si j'ose dire, puisque Conan Doyle, assez tardivement dans sa vie, s'est engagé dans la guerre du Transvaal, la guerre contre les Boers. Hein. Les Anglais étaient en compétition avec les Boers pour l'Afrique du Sud, c'était un territoire avec des enjeux. Donc il y a eu une guerre coloniale, hein, qui a opposé l'armée britannique avec Lord Kitchener, vous avez en bas à gauche, et une photo d'Arthur Conan Doyle en haut à gauche, vous voyez, qui est très martial, très militaire. Hein, et il a écrit un ouvrage qui était aussi traduit en français, Memories and Adventures, où il raconte son épopée militaire au Transvaal. Donc il s'est engagé dans l'armée britannique assez tardivement, hein, pour justement servir la couronne. Alors, Conan Doyle s'est intéressé également à des affaires judiciaires. Hein, il a toujours été contre les injustices, et il y a certaines affaires qu'on va voir ressurgir d'ailleurs dans Sherlock Holmes, notamment l'affaire George Edalji, qui était un médecin d'origine étrangère, hein, d'origine indienne, et qui avait été accusé injustement d'un meurtre. Et là, il a fait pression pour que la justice examine en particulier certains faits, certains détails. Et finalement, il a été innocenté. Et Conan Doyle s'est mouillé, comme on dit, hein, trivialement. Alors, vous avez à droite un ouvrage qui raconte cette histoire et d'autres qui s'intitule Conan Doyle détective, donc vous pouvez aussi vous procurer, hein, qui est en français. Donc les enquêtes du père de Sherlock Holmes. Et au centre, un roman qui raconte, dont la trame est basée sur les relations entre Conan Doyle et George Edalji, donc Conan Doyle qui avait sauvé Edalji. Et c'est un roman qui est paru aussi en français, que vous pouvez vous procurer. Donc vous voyez qu'Arthur Conan Doyle s'est engagé dans des affaires criminelles, hein, pour essayer de sauver des personnes qui ont été injustement condamnées. Alors voilà le deuxième cas important dans lequel il s'est engagé, c'est l'affaire Oscar Slater. Oscar Slater qui avait été accusé d'avoir tué une dame assez âgée, il a été accusé, vous avez à gauche une image populaire qui montre le meurtre, et on en dira un petit mot par la suite, Conan Doyle a permis, par son engagement, de faire acquitter Oscar Slater. Donc il s'agit d'un écrivain qui est très engagé dans des affaires judiciaires. Alors, dans la deuxième partie de sa vie, il s'est passionné pour le spiritisme. On en trouve la trace dans ses contes. Certains contes, comme Le Parasite, en haut, vous avez Le Parasite qui porte justement sur le spiritisme. Hein. Vous avez au centre Arthur Conan Doyle avec un fantôme. Alors ces fameux fantômes qu'on appelait les fantômes de Crookes, à gauche, on en voit un, et Conan Doyle a écrit une histoire du spiritisme, et vous avez une édition ancienne, donc à droite, ça a été traduit en français. Donc il s'est passionné pour le spiritisme, hein, passionné pour les sciences occultes, pour le spiritisme, et il a écrit, on en trouve la trace dans certains de ses contes, et puis il a écrit sur le spiritisme. Alors, donc, c'est un écrivain qui est un écrivain prolixe. Hein. Son œuvre ne se résume pas au Sherlock Holmes. Ici, vous avez la totalité de ses œuvres, donc ses œuvres complètes, qui pour la première fois ont été éditées chez Robert Laffont. Voilà. Moi, c'est là-dedans que j'ai lu les premiers Sherlock Holmes, et puis que j'ai lu le reste quand j'étais encore très jeune, collégien. Hein. Ça c'est un souvenir personnel, c'est mon père qui m'avait apporté de son entreprise, parce qu'il y a des bibliothèques d'entreprise, il y en a toujours d'ailleurs, qui m'avait apporté les volumes un par un. Donc voilà, ça c'est l'édition Robert Laffont, donc vous voyez que c'est une œuvre tout à fait considérable. Alors il faut savoir qu'on réduit souvent Conan Doyle à Sherlock Holmes, il a essayé de se dégager de ça, ça l'a énervé à un certain moment de sa vie, je vais y revenir. Hein. Lui, son ambition, c'était d'écrire des romans historiques. Hein. D'écrire des romans historiques, d'écrire un auteur comme Walter Scott, un auteur de romans historiques. Et puis, il a écrit beaucoup d'autres œuvres. Alors, vous avez à l'extrême droite des aventures médiévales, les aventures de Sir Nigel, donc il y a la Compagnie Blanche, et ensuite un deuxième tome qui s'appelle Sir Nigel, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Les aventures du brigadier Gérard, c'est les aventures d'un hussard à l'époque napoléonienne. Hein, il semble que Conan Doyle avait une certaine admiration pour Napoléon. Donc là, ce sont des aventures qui se déroulent en France. Au centre, il y a la série des aventures du professeur Challenger. Ça, c'est de la science-fiction. C'est sorti dans le Strand Magazine. Le monde perdu sous la mer. Ça, c'est le gouffre Marakot. Là, ce sont aussi des aventures de science-fiction. Donc on trouve un auteur de science-fiction, un auteur de roman. Qui sont des romans historiques. Donc il a énormément écrit. Voilà, ici quelques-uns de ses contes d'horreur dont il avait le secret. Alors à gauche, vous avez un exemplaire, je l'ai scanné, c'est un exemplaire original que j'ai dans ma collection. La main brune, bon, c'est l'histoire d'un médecin qui ampute un indien de sa main, et puis lorsque l'indien est mort, son fantôme vient le hanter, parce qu'il faut qu'il ait la totalité de sa main, donc tant qu'il lui a pas rendu sa main, il va l'obséder. L'horreur des altitudes, qui est un recueil assez récent de contes, justement, qui sont des contes contes d'horreur, et puis à droite des contes historiques, hein. La Dernière Légion, les contes antiques. Donc oui, que cette œuvre est vraiment extrêmement polymorphe, hein. Ça ne se réduit pas au Sherlock Holmes. Voilà. Ça, c'était pour vous dire que Landolt était vraiment un géant de la littérature. Alors maintenant, on va se concentrer sur Sherlock Holmes. Oh, bien entendu, je sais pas tout sur le sujet, hein. C'est un sujet maintenant d'érudition. Si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a vraiment des spécialistes, hein, et des clubs plus ou moins fermés. Je vais essayer de vous donner quelques lignes directrices. Alors, d'abord, sur l'obsession Sherlock Holmes. Voilà, ici, la création de Sherlock Holmes. À droite, vous avez, tout à fait à droite, une caricature qui montre qu'à un certain moment, Conan Doyle en a eu assez qu'on le réduise à Sherlock Holmes. On lui disait toujours, est-ce que vous allez publier encore des Sherlock Holmes? On lisait les Sherlock Holmes dans le Strand Magazine, je vais y revenir. Bon, il en avait assez parce que lui, il voulait quand même promouvoir son œuvre, l'œuvre classique, je dirais, l'œuvre historique, en particulier tous ses romans historiques. Hein. Il ne voulait pas être réduit à Sherlock Holmes et c'est ce qui faisait sa célébrité. Donc on l'arrêtait dans la rue, on lui causait de Sherlock Holmes, à un certain moment, il en a eu assez. Hein. Et vous avez ici au centre, vous voyez, Conan Doyle, The Man Who Created Sherlock Holmes. Hein. À gauche, Conan Doyle contre Sherlock Holmes, ça, c'est un ouvrage en français qui est sorti il y a quelques années, peu de temps. Bon, des timbres, il y a eu pas mal de timbres pour les philatélistes, hein, qui représentent soit les personnages de Conan Doyle, notamment Sherlock Holmes, soit qui représentent Conan Doyle lui-même. Vous avez ici Creator of Sherlock Holmes, toujours. Donc c'est obsessionnel. Alors, les Sherlock Holmes représentent donc une partie de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle. Cela se divise en 4 romans et 56 nouvelles qui ont été publiées entre 1887 et 1930, donc, okay, la veille de la Seconde Guerre mondiale. Comme il en avait assez de Sherlock Holmes, à un certain moment, il l'a tué. En 1893, je vais y revenir tout de suite, 1893, donc ça s'appelle Le Dernier Problème, et Sherlock Holmes meurt dans les chutes de Reichenbach, et sous la pression populaire, il va le ressusciter en 1930, de manière un petit peu acrobatique. Hein. En 1930, il le ressuscite parce que tout le monde dans la rue l'arrête et lui demande « Est-ce que vous allez réécrire Sherlock Holmes ?» Bon, il l'a tué au sens psychanalytique du terme et au sens romanesque du terme, parce qu'il en avait marre. Hein. Voilà. Alors, les Sherlock Holmes sortent dans le Strand Magazine, qui est un magazine populaire. Vous avez ici quelques couvertures qui montrent justement Sherlock Holmes. Hein. Donc, ça sont ils sont même ceux-là assez tardifs. Les premiers avaient des couvertures qui n'étaient pas en quadrichromie. Peu importe, c'est pour vous montrer le Strand Magazine, donc un journal important. Et alors, les Sherlock Holmes de Conan Doyle vont bénéficier d'un illustrateur hors pair qui s'appelle Sidney Paget, dont vous avez la photo en haut à gauche, qui lui-même représente d'ailleurs Sherlock Holmes. Enfin, il s'est lui-même portraituré en Sherlock Holmes. C'est probablement un autoportrait. Hein. Vous voyez, l'image qu'on peut avoir du détective colle assez bien à la photo de Sidney Paget. Donc c'est un illustrateur. À l'extrême droite, vous avez des illustrations qui sont non-holmésiennes. Bon, là, c'est la mort de la reine Victoria. Il y a d'autres illustrations qu'il faisait pour des journaux. Et il a fait donc les illustrations des Sherlock Holmes, qui pour les premières étaient en noir et blanc, et les suivantes en couleur. Au centre, une illustration assez dynamique, qui est, je trouve que c'est l'entrepreneur de Norwood, si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez, les personnages, hein, ont une certaine force. Hein. Et puis en bas, à gauche, également une illustration avec plus de quiétude de Sidney Paget. Donc ces illustrations vont être très célèbres. D'ailleurs, elles sont reprises dans certaines éditions modernes, hein, que vous pouvez trouver sur le marché. Alors, Sherlock Holmes est un personnage qui pratiquement, j'allais dire, c'est incarné. Hein. Il a vécu. Vous avez ici un roman qui est intitulé La grand-mère de Sherlock Holmes, qui est sorti en français, hein, bien sûr, c'est un auteur français. Conan Doyle nous raconte que Sherlock Holmes est un descendant du peintre Horace Vernet. Sa grand-mère était parente d'Horace Vernet. Alors vous avez la photo d'Horace Vernet avec la grande moustache style Napoléon III, hein, donc un peintre très, très connu qui faisait des grands tableaux. Et puis à droite, vous avez Sherlock Holmes. Donc oui, cette ressemblance. Hein. Alors Sherlock Holmes, c'est Sidney Paget. Mais bon, là, est-ce qu'il descend d'Horace Vernet ? Et puis, alors, un aspect très moderne de Sherlock Holmes, c'est que, vous savez qu'aujourd'hui, les colocations sont très à la mode hein, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants. Moi, je sais que, bon, j'avais un fils qui s'est mis souvent en colocation. Aujourd'hui, c'est très tendance, la colocation. Il faut savoir que ça a été lancé par Sherlock Holmes et son ami Watson. Hein. Voilà. Et vous avez à l'extrême droite donc un ouvrage de June Thompson qui n'est pas un roman parce qu'elle a écrit aussi des Sherlock Holmes apocryphes, mais qui est une étude en fait, une étude littéraire et historique sur Sherlock Holmes et qui montre bien la cohabitation. Alors la rencontre entre, j'y reviendrai, hein, la rencontre entre Sherlock Holmes et Watson, c'est une rencontre de futurs colocataires. Hein. Qui vont se partager un appartement qui est situé à Baker Street. Alors c'est le fameux 221B Baker Street, qui normalement n'existe pas. Si vous allez à Baker Street, vous ne trouverez pas. Il y a une description de ce fameux appartement où vont loger Holmes et Watson. Après, Watson va se marier, donc il va partir, il va quitter l'appartement, et Holmes sera le seul locataire. Vous avez donc une reconstitution en haut de ce fameux appartement, je ne rentre pas dans les détails, vous avez les recoins, avec le recoin pour la chimie, le recoin pour le tabac, etc. Bon. Et puis Baker Street, donc, qui est une rue de Londres, hein, donc on est ici dans le Londres tout à fait typique de l'époque victorienne, avec son fog, ses cabs, hein, vous voyez ici les cabs, et... Alors, je vous ai dit que Conan Doyle avait tué son personnage, hein, il a tué Sherlock Holmes, il l'a tué dans les chutes de Reichenbach, qui se situe donc en Suisse, hein, Suisse alémanique. Vous avez donc une gravure qui monte, gravure du 19e à l'extrême droite, qui monte ces fameuses chutes, et puis en action, donc Holmes et Moriarty qui sont en train de se battre au centre, et ils vont tomber ensemble dans ces chutes de Reichenbach. À l'extrême gauche, le personnage sur lequel je reviendrai, qui est le professeur Moriarty, donc qui est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, et les deux adversaires vont se battre et vont tomber tous les deux dans ces chutes, et Sherlock Holmes va mourir en éliminant son ennemi. Voilà. Alors vous avez le dessin de Sidney Paget à gauche, qui est aussi assez impressionnant sur cette chute. Et puis ensuite, il y a le retour de Sherlock Holmes, voilà, The Return of Sherlock Holmes, donc voilà, on le ressuscite, hein, Arthur Conan Doyle le ressuscite sur la pression populaire, et il va écrire donc une série de nouvelles intitulée The Return of Sherlock Holmes. Alors il y a eu une gloire posthume, aujourd'hui, beaucoup d'auteurs ont repris le personnage, hein, et en ont fait le héros de certaines aventures, donc ici j'ai mis un certain nombre de titres, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu les exploits de Sherlock Holmes par le fils de Conan Doyle, Adrian Conan Doyle, et puis John Dixon Carr, qui a écrit aussi des romans policiers comme La Chambre Ardente et d'autres qui sont assez connus des amateurs de romans policiers. C'est un excellent écrivain. C'est lui qui a écrit la biographie d'ailleurs de Conan Doyle. Bon, vous avez également Gérard Dole qui écrit beaucoup de contes d'épouvante, de contes mystérieux, de contes policiers au centre. Une dame, Carol Nelson Douglas, qui a écrit pas mal de Sherlock Holmes posthumes, notamment celui-ci, Bonne nuit, Monsieur Holmes, en reprenant sur la couverture donc certaines illustrations. À l'extrême droite, une édition, je dirais pas underground, mais bon marché, que vous achetez via Internet. Bon, ici, vous avez Sherlock Holmes et la suffragette amoureuse. On en trouve une autre, c'est sur le rat géant de Sumatra. Et puis la solution à 7%, qui est la solution de cocaïne, sur laquelle je reviendrai, de Nicolas Meyer, avec le portrait de Sigmund Freud, et puis en ombre chinoise, celui d'Arthur Conan Doyle, celui de Sherlock Holmes, excusez-moi. Bon, aujourd'hui, il y a également des films. Il y a eu des séries télé, plusieurs. Il y a eu plusieurs films, des films en noir et blanc, des films muets, des films parlants. La meilleure série, la plus fidèle à l'œuvre, c'est celle qui se trouve à l'extrême droite, voilà, avec Jeremy Brett dans le rôle de Sherlock Holmes. C'est celle qui est la plus conforme aux aventures. Il y a eu des séries dérivées, Sherlock en particulier, qui tournent encore d'ailleurs à la télévision, mais qui est assez fidèle d'une certaine manière au canon holmésien. Et puis au cinéma, des films que moi je trouve pas terribles, pour employer un terme assez modéré, parce que bon là, je trouve franchement, enfin voilà, ça porte pas grand chose. Ça pourrait s'appeler autrement, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. Bon, je suis un peu dur, mais enfin bon, voilà, c'est ça. J'en ai vu un avec mon épouse. Je me suis fait gronder à la sortie. Bon, alors maintenant, elle m'a dit c'est bien pour te faire plaisir, mais bon. Puis honnêtement, c'était pas bon. Alors, Sherlock Holmes, c'est la science, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais je pense qu'il était utile quand même de présenter un petit peu ce contexte, hein, pour comprendre des choses. Alors, il y a eu des ouvrages, hein, qui traitent du sujet, en particulier au Centre Scientific Sherlock Holmes, ouvrage en anglais, que j'ai pas mal utilisé. Et puis, La science de Sherlock Holmes, qui est une traduction d'un ouvrage en anglais, qui se trouve à gauche, et qui est surtout ciblé sur le contexte et l'environnement, et pas tellement sur les aventures, hein, mais qui est tout à fait intéressant, parce que ça permet de contextualiser les choses. Alors il y a également des études qui ont été faites, études de psychanalyse, vous voyez, la méthode Sherlock Holmes de la clinique à la critique, Sherlock Holmes et compagnie, détective de l'inconscient, donc ça c'est psychanalytique, hein. Bon, ça a commencé assez tôt, puisque vous voyez, en 1906, il y a un certain docteur Bercher qui a écrit l'œuvre de Conan Doyle et la police scientifique au XXe siècle, études médico-légales. Donc très tôt, ça a été étudié. Alors, dans un premier volet, nous allons voir les aspects police scientifiques, donc les disciplines qu'on peut rattacher plus ou moins directement à la police scientifique. L'anthropologie judiciaire, en fait, n'est pas utilisé par Conan Doyle dans ses aventures. Pourtant, Bertillon est déjà là, avec ses fameuses photos de face et de profil, et ses mesures anthropométriques, et en fait, Sherlock Holmes n'utilise pas l'identification anthropométrique, donc il n'utilise pas le système Bertillon. Je crois qu'il le mentionne une fois, mais il n'utilise pas l'anthropologie judiciaire, qui exclut d'ailleurs les empreintes digitales. Les empreintes digitales, hein, c'est autre chose. L'anthropologie judiciaire, c'est un ensemble de mesures anatomiques, hein, qui sont faites. Alors les empreintes digitales, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Le premier romancier qui a utilisé l'idée, hein, c'est un romancier américain qui s'appelle Mark Twain, dans un ouvrage qui s'appelle Life on the Mississippi. Donc on a su exactement... déterminer quel était le premier romancier qui avait utilisé l'idée d'une identification avec les empreintes digitales. Et ça a précédé la police. En l'occurrence, la fiction a précédé la police. Vous voyez. C'est un romancier qui a eu l'idée avant. C'était une idée dans l'air du temps, mais la police n'a pas adopté tout de suite ces empreintes. Et en particulier dans l'affaire Oscar Slater, Sherlock Holmes a défendu cet homme qui avait été accusé d'un meurtre atroce. Et il avait demandé à ce que des empreintes digitales soient comparées à des empreintes qui traînaient justement sur la scène de crime, parce qu'il y avait des empreintes digitales. Et il a littéralement harcelé donc la police, et finalement on s'est aperçu que oui, il y avait des empreintes digitales. Et voilà. Alors la première affaire, le premier cas qui a permis d'inculper des prévenus grâce à leurs empreintes digitales, c'est l'affaire Stratton. Donc c'est le premier cas d'utilisation, je dis, oui, 1905 seulement, hein. 1905, alors que dans les années 1880, on parlait déjà de cette possibilité. Donc là, c'était deux frères qui ont été convaincus d'un meurtre, et là, on voit l'empreinte digitale en haut à gauche. Hein. Voilà. Alors, ces empreintes digitales se trouvent dans les Sherlock Holmes, elles se trouvent, soit elles sont présentes, soit elles sont absentes. Dans une aventure qui s'appelle « L'homme à la lèvre tordue », où le personnage à la lèvre tordue, en fait... mime un mendiant, hein, qui va essayer de. Voilà, qui récupère de l'argent, c'est un faux mendiant. Là, on trouve des empreintes. Dans les trois étudiants, pas d'empreintes. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'empreintes va donner un indice à Sherlock Holmes. Alors, vous voyez, 1903, j'ai mis même les romanciers lisent, parce que Conan Doyle a lu dans un ouvrage qu'on lui avait recommandé, d'ailleurs si mes souvenirs sont bons, un ouvrage, Tidbits, il a trouvé une nouvelle qui mettait, enfin, un auteur qui disait ça, ça serait intéressant s'il y avait des fausses empreintes digitales. Et il a tiré l'idée de cet ouvrage. Et dans une de ses nouvelles holmésiennes qui s'appelle L'entrepreneur de Norwood, il y a une fausse empreinte digitale. Donc vous avez ici Sherlock Holmes qui est en train de regarder sur un mur une empreinte, et en fait l'empreinte elle a été faite après coup, il s'en aperçoit, il dit mais c'est trop beau pour être vrai, donc là c'est la fausse empreinte digitale. Parce qu'il avait un doute et le criminel a mis ensuite une empreinte digitale pour l'induire en erreur. C'est l'empreinte de trop. Alors les traces de pas, 36 cas sur 60 aventures, on les utilise en justice à partir de 1890, et Conan Doyle utilise davantage d'ailleurs les empreintes de pas que les empreintes digitales. Il y a certains cas où c'est rentable, d'autres où ça l'est moins, notamment dans le diadème de Beryl, vous avez ici les empreintes de pas dans la neige. Dans Boscombe Valley, le mystère de Boscombe Valley, ce sont les empreintes de pas qui permettent de résoudre totalement le cas, qui permettent à Sherlock Holmes de résoudre totalement le cas. Dans une nouvelle qui s'appelle L'école du prieuré, il y a des traces qui sont des traces de pneus et d'animaux. Alors, Sherlock Holmes connaît les traces de tous les pneus, je dirais pas de Français de Navarre, mais d'Angleterre, hein, de Grande-Bretagne. Il identifie tout de suite des pneus d'un lope de telle année. Et en plus, il y a des traces d'animaux, mais qui sont des fausses traces. C'est-à-dire qu'il trouve des traces de bovins avec des traces d'ongulés caractéristiques. En fait, ce sont des chevaux auxquels on a mis des fers qui reproduisent des traces de bovins. Donc il y a des fausses empreintes de pas. Donc vous voyez, c'est une affaire compliquée là. Hein. Les traces de pas, toujours, eh bien, dans le pensionnaire en traitement, en fait ce pensionnaire, c'est un criminel qui essaye de se cacher, donc il demande à quelqu'un, un médecin, il lui dit, écoutez, vous avez besoin d'un cabinet, vous êtes pauvre, ok, voilà, je vous donne de l'argent, vous avez de quoi monter un cabinet. Et par contre, moi, je reste chez vous comme un pensionnaire en traitement. C'est-à-dire, j'occupe une pièce, une chambre. Hein, et en revanche, je vous donne de l'argent pour vous établir. Effectivement, le médecin, il dit OK, hein, puisqu'il n'a pas d'argent. Hein, donc, c'est vraiment bilan. Hein. Et le pensionnaire en traitement, en fait, on s'aperçoit après coup que c'est un criminel. Et il va être tué, il va y avoir une vengeance contre lui. Et Sherlock Holmes va identifier par les empreintes de cas l'ordre dans lequel les criminels ont monté l'escalier pour tuer ce pensionnaire en traitement. Dans une aventure qui s'appelle le pied du diable, on apprend que Holmes a rédigé une monographie sur les... Parce qu'il fait pas mal de monographies. Holmes est lui-même un auteur, il rédige des monographies sur les cendres de cigarettes, enfin sur l'identification de cendres de cigarettes, sur l'identification justement des empreintes de pas. Et dans le signe des quatre, on parle justement de cette monographie hein, de Sherlock Holmes. Alors, dans le pied du diable, Sherlock Holmes effectue un moulage des empreintes. Et là, on s'est demandé si Conan Doyle n'était pas un précurseur, parce que la police, à l'époque, n'avait pas l'habitude de faire ces moulages. Et son fils, notamment, le fils d'Arthur Conan Doyle, a écrit un article dans lequel il disait que son père était un précurseur. Parce qu'on n'avait pas l'habitude encore de faire des moulages d'empreintes de pas. Alors, autre type d'études scientifiques qui permettent d'apporter quelque chose à la police, hein, la graphologie. Bon, identifier l'auteur d'un forfait ou d'un crime, hein, ou quelqu'un qu'on recherche tout simplement par l'écriture, eh bien, on trouve l'utilisation de la graphologie dans une aventure qui s'appelle le traité naval. Hein, c'est un traité qui a été dérobé. Dans l'entrepreneur de Norwood, Holmes va tirer un certain nombre de déductions d'un testament. Il s'aperçoit en fait que l'écriture est irrégulière et il en déduit que le testament a été écrit dans un train. Donc quand l'écriture est assez moulée, assez régulière, c'est à l'arrêt, lors des stations d'arrêt du train. Et puis lorsque l'écriture est un petit peu hachée, c'est quand le train est en train de rouler. Alors vous en avez fait certainement l'expérience si vous avez essayé d'écrire dans un train ou même dans un tramway. Moi j'ai essayé d'écrire dans le tram ou dans le métro pour éviter de perdre du temps. En général, c'est pas terrible. Par contre, quand on s'arrête aux stations, là on est un petit peu tranquille pour écrire. Voilà. Donc là, il arrive à tirer des déductions. Alors, un petit peu plus fin dans les propriétaires de Reigate, il s'aperçoit qu'il y a deux écrivains, si j'ose dire, il y a deux scripteurs qui ont écrit ensemble un document. Donc il va dire en fait que c'est le père et le fils, et il va convaincre comme ça ces fameux propriétaires de Reingate qui sont des criminels, hein, de leur forfait. Dans la vallée de la peur, il y a des déductions nombreuses qui sont faites sur l'écriture. Alors, plus fort, les documents imprimés ou tapés à la machine, c'est à cette époque qu'on voit apparaître les premières machines. Hein. Première machine à écrire, avec d'ailleurs des jeunes filles qui font des études de secrétariat. Hein. Alors, dans un code d'identité, a case of identity, Sherlock Holmes tire un certain nombre de déductions de l'écriture de lettres. En effet, il y a des lettres de séduction, des lettres d'amour qui sont écrites, mais elles sont tapées à la machine. Alors il se dit, en général, c'est des lettres assez intimes, on préfère les écrire à la main, hein, plutôt que les taper à la machine. Et il en déduit, si vous voulez, de cette caractéristique, le fait que celui qui a écrit à la machine ne voulait pas qu'on reconnaisse son écriture, donc c'était un proche de la victime. S'il avait écrit à la main, la jeune fille qui tentait de séduire aurait pu éventuellement identifier son écriture. Donc il a tapé ses lettres d'amour à la machine à écrire. Il va comme ça démasquer le criminel. Il s'aperçoit que c'est un proche de la victime. La victime étant donc la jeune fille séduite. Hein. Alors la cryptographie, les cryptogrammes, il y en a un certain nombre. C'est Edgar Poe, donc un auteur anglais très connu, hein, qui a lancé la mode de ces cryptogrammes. Et en 1843, il va publier une nouvelle qui s'appelle Le Scarabée d'or, dans laquelle il y a un fameux cryptogramme que j'ai reproduit en haut, là, que j'ai récupéré sur Internet, où le héros de l'histoire va arriver à décrypter justement un message. Et Edgar Poe lui-même était un fanatique des cryptogrammes, puisque dès 1839, il va proposer des messages codés dans les journaux, donc il va demander qui arrive à décoder ce message. Hein. Edgar Poe, qui est mort assez tragiquement, hein, qui est mort dans la misère. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de... Il y a eu un mystère sur la mort d'Edgar Poe. Alors certains ont dit qu'il avait été tué, d'autres qu'il y avait eu autre chose. Bon, c'est un peu comme la mort de Gérard Nerval, hein. Il y a eu toute une mythologie autour. Alors vous avez ce fameux scarabée d'or avec une gravure de l'époque. Il y avait un crâne qui ressemblait à un scarabée. Alors on trouve ces cryptogrammes dans différentes aventures de Sherlock Holmes, notamment dans Les Hommes dansants, vous voyez, c'est une écriture très complexe à décrypter avec des hommes qui dansent, donc chaque caractère est remplacé par un homme dansant. Dans le Gloria Scott, Holmes se trouve au collège lorsqu'il est amené à déchiffrer un de ces cryptogrammes. Les hommes dansants, d'ailleurs, si mes souvenirs en sont bons, ça se termine mal parce qu'ils déchiffrent in extremis et il y a mort d'homme. Quelquefois, il arrive un petit peu trop tard. Il résout l'énigme, mais malheureusement, quelquefois, il arrive trop tard. Alors, les chiens, il y a une utilisation très importante des chiens dans les aventures de Sherlock Holmes. Et là encore, Conan Doyle est un petit peu en avance sur son temps puisque la police commence tout juste à utiliser les chiens. Les chiens policiers apparaissent tout juste. Et là, Sherlock Holmes utilise beaucoup les chiens. Alors, à gauche, dans un trois quarts a été perdu. Donc un trois quarts, c'est un footballeur, c'est un joueur de football, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc on utilise un chien qui s'appelle Pompey. Alors quelquefois, il y a le nom du chien. Dans le signe des quatre, Toby va être induit en erreur par de la créosote, parce que le criminel va verser cette créosote qui est un produit qui a une odeur très forte, donc ça va perturber l'odorat du chien. Et puis à droite, alors vous avez quelque chose qui est très intéressant et important, c'est une invention d'Arthur Conan Doyle, c'est ce qu'on appelle le non-incident. Le non-incident dans Flamme d'argent, Silver Blaze, Flamme d'argent, qui est un cheval qui a une marque blanche sur le chanfrein, donc on l'appelle Flamme d'argent. Et à un certain moment, Sherlock Holmes dit à Watson, souvenez-vous de l'accident avec le chien. Et Watson lui dit, mais il n'y a pas eu d'accident avec le chien. Et il lui dit justement, c'est ça l'accident. Le non-accident ou le non-incident a un rôle. Le fait que quelque chose ne se produise pas alors que ça aurait dû se produire est intéressant pour le policier. Alors dans Shoscombe Place, donc il y a le rôle crucial d'un épagnol qui va reconnaître sa maîtresse. Hein, donc il va mettre sur la piste Sherlock Holmes. On pense qu'elle a disparu, mais non, elle existe toujours et l'épagnol va permettre l'identification. Alors au début d'ailleurs de cette aventure, vous avez l'utilisation d'un microscope. On voit ici le dessin de Sidney Paget, hein, avec Watson qui regarde au microscope et Sherlock Holmes qui lui explique que le microscope c'est intéressant pour intéressant dans le domaine de la criminologie. Alors ici vous avez deux cas réciproques, dont un qui va être que je vais un petit peu reprendre par la suite. Dans Le Vampire du Sussex, c'est une aventure au cours de laquelle une jeune femme est accusée de sucer le sang de son enfant. C'est un remariage. Et en fait, Sherlock Holmes va éclaircir l'affaire, hein, élucider l'affaire. En fait, c'est un fils qui était né d'un premier mariage, qui était jaloux du bébé et qui le piquait avec des flèches enduites de curare, qui se trouvait dans la collection du maître de maison. Donc là, il y a un cas réciproque, parce que dans il y a un exemple pour lequel on va trouver, si vous voulez, une tentative de meurtre, et il va y avoir une révélation avec un chien familier qui s'appelle Carlo. Hein, et le chien, en fait, va montrer des signes d'intoxication, parce qu'en fait, le criminel a testé sur lui le poison. Donc là, le chien va être la victime du poison, et indirectement, Sherlock Holmes va dire, bon, il a fait un test sur le chien pour passer ensuite à l'homme. Hein, voilà. Et puis, dans L'aventure de l'homme qui grimpait, c'est un cas qui est un cas qu'on appelle réciproque, c'est pas moi hein, qui suis à l'origine de cette nomenclature, c'est les savants holmésiens, parce que dans L'homme qui grimpait, en fait, le chien va servir de révélateur, il va être agressif vis-à-vis de son maître. Pourquoi ? Parce que son maître s'est transformé. Hein. Son maître, c'est un professeur de physiologie qui veut se remarier, décidément il y a beaucoup de remariages, hein, qui veut se remarier, et pour retrouver sa virilité, ou pour la conserver, pour que sa jeune femme soit parfaitement contente, eh bien il va s'injecter des hormones. Alors c'est l'époque où on commence, où on découvre les hormones et l'hormonothérapie. On trouve les hormones, on découvre les hormones sexuelles, en particulier les androgènes, Et c'est Brom Séquard, qui est un des physiologistes, qui est précurseur, hein, il va être d'ailleurs professeur au Collège de France, Brom Séquard, qui va tester sur lui des hormones. Alors peut-être que Conan Doyle s'est inspiré de ce cas, hein, on ne sait pas. Mais Brom Séquard, donc à la même époque, va s'injecter des hormones, et il va décrire ce qui se passe, il va dire que je retrouve ma virilité, quand j'urine, le jet est plus puissant, etc., etc. Alors il y a des caricatures qui sont faites, bien sûr, c'est une caricature en bas, hein. Et puis alors à gauche, le célèbre Voronov qui lui va également aller dans ce sens, hein, de l'hormonothérapie. On va s'apercevoir in fine que ce qu'il fait n'est pas sérieux, mais ça va occuper la une des journaux pendant un certain temps. Alors là, dans le cas de l'homme qui grimpait, en fait, il s'injecte un sérum d'un singe qui n'existe pas, qui est le langur à tête noire des montagnes de l'Himalaya. La Conan Doyle donne libre cours à son imagination, hein. Donc c'est un singe anthropoïde, et il va s'injecter donc des extraits de glandes de singe, probablement de testicules de singe. Alors il y a une phrase célèbre, vous savez, qui veut faire l'ange fait la bête, c'est voilà. L'homme à ce moment-là est rabaissé au rang de l'animal qui lui a fourni ses hormones. Alors, le chien peut être un révélateur de poison, on en a un cas dans Le Vampire du Sussex, hein, puisque le chien a été intoxiqué par le criminel, qui a testé sur lui le poison avant de l'administrer à sa victime. Et puis dans une étude en rouge, le chien de Madame Hudson, le chien de la logeuse de Sherlock Holmes, meurt dans des conditions obscures. C'est Sherlock Holmes qui, voyant que le pauvre animal était au bord du trépas, va lui administrer un poison. Alors la toxicologie est représentée à l'époque victorienne en Angleterre par des savants qui sont tout à fait considérables. Vous avez Sir Christison qui est allé jusqu'à s'injecter à lui-même des substances toxiques pour décrire les symptômes, et qui a écrit un célèbre traité des poisons. Donc Sir Christison à Édimbourg, qui était lui-même le maître de Thomas Robert Fraser, vous avez à l'extrême droite, qui lui a fait des études, il est allé d'ailleurs aux Indes pour faire des études sur la lèpre, et puis donc il a été missionné officiellement, et puis il a fait des études sur toutes sortes de substances, et il a isolé en hétérosite cardiotonique et cardiotoxique. J'en avais parlé dans une autre conférence d'ailleurs. Donc vous voyez qu'il y a de célèbres toxicologues hein, en Angleterre et en Écosse. Et puis c'est l'époque durant laquelle la toxicologie analytique, donc la toxicologie de laboratoire, de diagnostic, va se développer. Pourquoi ? Parce que la chimie a fait beaucoup de progrès. Donc on va parvenir à identifier les substances chimiques qui sont toxiques sur les cadavres, hein, à partir des organes, à partir des tissus, à partir des liquides biologiques. Alors ici, vous avez la célèbre méthode de Marsh, qui est une méthode qui permet de détecter l'arsenic. Il y a un précipité noir qui a une odeur aliacée dans le tube qui sort du flacon. L'arsenic est sublimé, il va faire un miroir d'arsenic sur le tube. Bon, aujourd'hui, c'est plus utilisé dans les méthodes type spectrophotométrie d'absorption atomique. Mais dans les labos à l'époque, quand j'étais jeune assistant, c'était encore utilisé. Alors il y a une célèbre affaire qui a justement mis en évidence l'intérêt de la chimie pour la détection de toxiques en médecine légale, c'est l'affaire Bocarmé. L'affaire Bocarmé, donc, c'est un Belge qui avait mis au point une méthode permettant de détecter la nicotine. Et il y a eu le comte de Bocarmé qui avait commis un meurtre crapuleux donc pour s'approprier un héritage. Et on a mis en évidence le fait qu'il avait utilisé de la nicotine. Et il a été ensuite exécuté. Donc cette affaire Bocarmé a frappé les esprits. Et c'était le premier cas, si vous voulez, d'identification d'une substance chimique. L'affaire Palmer, un médecin criminel qui avait tué, je ne sais plus, un de ses patients, ou un parent, en Angleterre cette fois-ci. Donc là, il utilise un autre alcaloïde qui est la strychnine, et vous avez le jugement de Palmer en bas, et puis vous avez dans un journal là, l'affaire William Palmer, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Donc là, on commence à avoir des moyens qui vont être utilisés, on va le voir dans certains cas par Sherlock Holmes, pour mettre en évidence les substances toxiques. Alors si on passe en revue les toxiques des aventures de Sherlock Holmes, il y a des toxiques qui sont des gaz. Dans le rituel des Musgrave, il y a un criminel qui meurt intoxiqué par le monoxyde de carbone parce qu'il est enfermé dans un réduit et que ben voilà, sa respiration rejette du dioxyde de carbone. Oui, du dioxyde, je ne sais pas si j'ai dit monoxyde, dioxyde de carbone. Et puis le monoxyde de carbone, dans l'interprète grec, cette intoxication redoutable qui sévit à l'époque où Arthur Conan Doyle vit, et puis qui, jusqu'à une époque récente d'ailleurs, a fait des victimes, jusque dans les années 50-60, maintenant ça s'espace. Mais s'il y a un chauffe-eau qui tire mal ou un poêle qui tire mal, on peut avoir des intoxications à l'oxyde de carbone. Hein. Je dis toujours d'ailleurs à mes étudiants qu'Émile Zola est mort de cette manière. C'était une intoxication criminelle. D'ailleurs, on avait bouché sa cheminée et sa femme s'en est tirée. Lui est mort d'intoxication par le monoxyde de carbone. Donc, dans l'interprète grec, on a une intoxication par le monoxyde de carbone avec un chauffage. Dans la pensionnaire voilée, utilisation d'acide cyanhydrique pour une vengeance. Cette pensionnaire, pourquoi est-ce qu'elle est voilée ? Parce qu'elle a été défigurée par un lion. Et ce lion, en fait, a été lâché par quelqu'un qui lui voulait du mal, et elle va se venger, elle va le tuer avec le cyanure. Elle est voilée parce qu'elle a été défigurée par les griffes du lion. Bon, utilisation du chloroforme par Sherlock Holmes dans son dernier coup d'archet, dans les trois Garidèbes, une autre aventure, également dans la disparition de Lady Frances Carfax. Donc on trouve le chloroforme, qui est un anesthésique. Et d'ailleurs, ce sont des Britanniques hein, qui les premiers ont utilisé le chloroforme à peu près à la même époque pour faire les premières anesthésies. Hein. Anesthésie, bon, on a utilisé plusieurs gaz, il y avait le gaz hilarant qui était le protoxyde d'azote, on a utilisé le chloroforme. Et la reine Victoria, d'ailleurs, au cours de l'un de ses nombreux accouchements, avait demandé une anesthésie au chloroforme pour moins souffrir. On l'avait anesthésié avec un coton imbibé de chloroforme. C'était une anesthésie à la compresse. On avait dit la compresse à la reine, c'était passé dans le langage des anesthésistes. Hein. Nous, notre professeur de chirurgie nous parlait de ça, de ce type d'anesthésie. Puis ensuite, on s'est aperçu que le chloroforme était quand même assez toxique, donc on l'a abandonné. Mais voilà, c'est l'époque à laquelle, au cours de laquelle on fait les premières anesthésies. Hein. Ce sont des dentistes, d'ailleurs, pour la plupart, qui vont tester ces anesthésiques. Hein. Comme Morton, par exemple. Bon, les alcaloïdes, qui sont des toxiques que l'on commence à mettre en évidence au début du 19e siècle, qu'on commence à connaître. Alors, on va trouver ces alcaloïdes dans l'étude en rouge, qui est la première aventure où apparaît Sherlock Holmes, hein, et la première aventure dans le Strand Magazine. Étude en rouge, donc, un individu qui va mourir parce qu'on lui propose un poison, hein, donc un poison foudroyant qui est très probablement un alcaloïde. Et alors, dans le signe des quatre, on a également une intoxication. Enfin, on a un indigène des îles Andaman, qui sont des îles qui vont se trouver dans la périphérie du sous-continent indien, si mes souvenirs sont bons. Cet indigène utilise des flèches enduites, non pas de curare, mais d'une substance toxique qui est probablement donc un alcaloïde. Alors, dans ces affaires, il semble que Conan Doyle ait été influencé par une affaire qui a été l'affaire Carlyle-Harris, au cours de laquelle il a eu intoxication criminelle d'une jeune fille par un étudiant en médecine qui a utilisé un mélange de quinine et de morphine. Vous savez, l'ouvrage qui raconte cette affaire, donc le Carlyle-Harris case. Hein, voilà. Et alors, il semble d'ailleurs qu'il y ait aussi quelqu'un qui soit inspiré de l'aventure, donc oui, la réciproque est vraie, pour utiliser un alcaloïde. Hein, on n'a pas su exactement. Alors, il y a des poisons quelquefois exotiques. L'aventure du pied du diable. Bon, le pied du diable, en fait, c'est une racine qui contient une substance toxique qu'on ne nomme pas dans l'aventure. Et il y a un criminel qui la jette dans le feu et la combustion va dégager des vapeurs qui sont des vapeurs toxiques. Et ceux qui se trouvent dans la pièce vont mourir dans des conditions horribles. Ils vont avoir, voyez, des sortes de convulsions. Ils vivent dans un état de terreur. Hein. Voilà, ils meurent et on trouve qu'ils sont morts de peur. Bon. Et en fait, c'est induit par la substance toxique qui se trouve dans le végétal. Bon, alors vous avez en haut donc Holmes et Watson devant un des cadavres de cette affaire. Là, vous avez l'intoxication en fait du criminel. Puisqu'il y a un justicier qui va... Il a perdu sa fiancée dans l'affaire, donc il va intoxiquer le criminel. Et puis, Holmes va recueillir un petit peu de cendres, parce que la substance a été déposée sur une lampe, hein, lorsque le justicier va tuer le criminel, et Holmes va récupérer un petit peu de la cendre, et il va la mettre dans sa cheminée, et Watson et Holmes vont être victimes de cette terreur épouvantable, mais heureusement la dose est très faible. Alors vous les voyez là en train de récupérer sur la pelouse, hein, parce que ils sortent en vitesse et puis ils récupèrent de l'intoxication. Bon, les stupéfiants, il y a la cocaïne, puisque la fameuse solution à 7% est utilisée par Sherlock Holmes pour doper son intellect. Et c'est l'époque durant laquelle Freud avait préconisé l'utilisation de cocaïne. Il avait écrit un article célèbre intitulé « Uber Coca ». Et on l'avait accusé d'avoir lancé la cocaïnomanie. Il y a un de ses amis d'ailleurs qui est mort de l'utilisation de cocaïne, hein, qui est mort de manière tragique, intoxiqué, de manière chronique. Bon, donc on en a beaucoup voulu à Freud. Hein, on dit c'est lui qui a lancé la cocaïnomanie. Alors il y a un ouvrage de Nicolas Meyer qui met en scène à la fois Sherlock Holmes et Sigmund Freud. Bon. Donc Sherlock Holmes s'injecte la cocaïne et Watson n'est pas content du tout. Hein, bon, Holmes dit, bah, quand je suis dans une période comme ça où il n'y a pas de cas à résoudre, eh bien, je déprime, donc il faut que je m'injecte de la cocaïne. Voilà. Donc Watson joue le rôle ici de surveillant, d'agent de probation, j'y reviendrai parce que c'était repris dans une série récente. Alors la chimie, bon, très important, c'est une discipline qui apparaît beaucoup, et cette chimie, elle est importante à l'époque victorienne, puisque c'est l'époque durant laquelle vont être synthétisés les premiers colorants, notamment la mauveine, synthétisée par Perkin, que vous avez à l'extrême droite, qu'il a synthétisé très jeune, et par hasard d'ailleurs, c'est un cas de synthèse par hasard, il est tombé dessus par hasard. Et cette couleur mauve, d'un colorant, on appelait ça les colorants de la houille, parce qu'on utilisait des matières premières tirées des goudrons de houille, hein, pour faire ces synthèses. Donc ce mauve va être porté par la reine Victoria, on le retrouve sur les timbres à l'effigie de la reine Victoria, et en France d'ailleurs, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, hein, Napoléon III et la reine Victoria s'entendaient très bien. Hein. D'ailleurs, la reine Victoria est allée en France. ils s'appréciaient beaucoup. C'était deux souverains qui s'appréciaient beaucoup. Et l'impératrice Eugénie apportait aussi le mauve. Hein. Donc ça, c'était les premières couleurs industrielles, les premiers colorants qui ont été commercialisés. Il y a eu aussi des médicaments qui sont apparus progressivement. Mais voilà. Alors, c'est l'époque donc durant laquelle la chimie et la chimie industrielle se développent beaucoup. L'étude en rouge, la première aventure de Sherlock Holmes, commence dans un laboratoire de chimie. Je vous ai dit que c'était très moderne puisque Watson revient d'Afghanistan, il est blessé, il rencontre un de ses vieux amis, qui lui dit « écoute, t'es dans un sale état ». Bon, Watson dit « j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai une solde qui est maigrichonne ». Je cherche quelqu'un pour partager un appartement. Et à ce moment-là, son ami lui dit, écoute, justement, moi, je connais quelqu'un qui cherche un appartement à partager. Tu verras, il est un peu bizarre, mais enfin, bon, voilà. Et la rencontre entre Holmes et Watson va se faire dans un laboratoire de chimie. C'est-à-dire que l'ami de Watson va lui dire, écoute, je vais te présenter mon ami, puis vous verrez, si vous faites affaire, vous faites affaire, si vous ne faites pas affaire, tant pis. Et il dit, voilà, on va à l'université, et puis je te le présente. Et là, Sherlock Holmes était en pleine ébullition, puisqu'il venait de découvrir une réaction qui permettait de caractériser par précipitation, par un précipité rouge, de caractériser les taches de sang. Il dit, eh bien voilà, il y a un criminel qui va être exécuté, parce que je viens de prouver qu'il y avait du sang. Il est d'ailleurs très jovial, il serre la main de Watson, voilà. Donc tout va bien se passer entre les deux. Alors, à Montpellier, pourquoi Montpellier ? Parce que dans le gap des aventures, quand Holmes va mourir, je vous ai dit que Conan Doyle devrait le ressusciter sous la pression populaire. Et il va falloir raconter ce qu'a fait Holmes pendant les années de sa disparition. Alors, il va lui arriver des aventures, il va avoir le Dalai Lama en particulier, et certains romanciers qui ont écrit des aventures apocryphes vont s'en servir. Il y en a un qui s'appelle Le Mandala de Sherlock Holmes, un roman donc qui est une suite, hein, mais qui se passe en fait dans l'intervalle. Et puis il va à Montpellier, il va en France, chez un professeur de la faculté de Montpellier, pour étudier, c'est dit dans la nouvelle, hein, le goudron de houille. Voilà. Donc il passe son temps, il fait beaucoup de chimie. Il fait beaucoup de chimie. D'ailleurs, dans son appartement, il y a une paillasse, il y a des mauvaises odeurs, il fait des choses malodorantes. Voilà. Alors vous avez à droite donc la résurrection de Sherlock Holmes, hein, et Watson, bien sûr, il tombe dans les pommes quand il voit arriver Sherlock Holmes, et puis Sherlock Holmes lui explique ce qu'il a fait. Voilà. Il a travaillé en particulier sur les goudrons d'ouïe. Alors on va retrouver la chimie dans différentes aventures avec plusieurs produits. On peut les lister. Voilà. Alors les hydrocarbures dans le signe des quatre, en fait, ces hydrocarbures donc sont des produits comme la créosote ou d'autres. Le bisulfate de barium utilisé dans un problème d'identité, en fait, c'est cité par Sherlock Holmes, hein, qui dit c'était du bisulfate de barium, c'est-à-dire qu'il fait une identification d'un produit au début de l'aventure. Puis après, on n'en parle plus. Hein. C'est simplement pour souligner sa passion pour la chimie. Le pouce de l'ingénieur, l'ingénieur va être soigné avec du phénol, parce que, vous voyez, il y a quelqu'un qui lui a coupé son pouce avec une hache. Hein. En fait, il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir, donc quand il s'enfuit, il va laisser son pouce dans l'affaire. Autre substance, dans le traité naval, on parle d'un acide. L'acide sulfurique, donc le vitriol dans l'illustre client. Donc là, il y a un maître chanteur qui va être défiguré par sa victime. Hein. Il va être défiguré par sa victime. Dans le chien des Baskerville, le caractère fantastique de ce fameux chien des Baskerville, donc qui sont des nobles. Hein. Alors Hugo de Baskerville, qui vivait à l'époque médiévale, était un seigneur sans pitié. En fait, la légende raconte qu'il a été tué par un chien. Hein. Et depuis, il y a un chien géant qui erre sur la lande. Et ce chien, en fait, il est rendu artificiellement fantastique parce qu'on le recouvre de phosphore. Donc Stapleton, qui est un descendant d'ailleurs des Baskerville et qui est le criminel de l'histoire, va enduire le chien de phosphore. Et c'est comme ça qu'il va lui conférer un aspect monstrueux. Alors, il y a un des Baskerville qui va mourir d'une crise cardiaque. D'ailleurs, on sait qu'il a le cœur faible, donc il va mourir d'une crise cardiaque en voyant ce chien fantastique sur la lande. La minéralogie, voilà. Alors, on en a parlé lors de ma dernière conférence. Il y avait une collègue qui était spécialiste, d'ailleurs, des minéraux. On a discuté de ces fameux doublets. Alors, il y a une aventure de Sherlock Holmes qui s'appelle le Diamant Bleu, The Blue Carbuncle, et dans un ouvrage anglo-saxon, hein, anglais, on discute beaucoup, on dit ah, bah, les diamants en général c'est pas bleu, ou alors il y a une impureté dans le diamant. Alors, en fait, il y a des diamants bleus. Vous avez à droite l'histoire d'un diamant bleu qui a été écrit par un collègue du Muséum d'Histoire Naturelle. Ce diamant bleu appartient à la collection du Muséum. Hein. Il y en a également en Angleterre. Dans un ouvrage, il y a un auteur qui explique que, en fait, bon, cette escarboucle était soit un diamant teinté, mais les diamants bleus, c'est pas très fréquent, hein, soit ce qu'on appelle un doublet, vous voyez, un doublet sur le schéma, c'est-à-dire qu'on associait du verre sans valeur à une pierre précieuse ou semi-précieuse, comme un grenat, et à ce moment-là, on avait une coloration. Hein, on avait une coloration du verre, ça pouvait passer pour un diamant coloré par le rouge du grenat. Bon, alors, on trouve des minéraux de valeur, hein, des diamants dans plusieurs aventures, comme l'escarboucle bleue. Et là, le criminel va cacher cette escarboucle bleue dans une oie, c'est un petit peu exotique comme cachette, mais voilà. Et puis la pierre de Mazarin, Sherlock Holmes ici a mis à sa place un mannequin. Et le criminel va essayer de le tuer, donc il va taper, mais sur un mannequin, et vous avez Sherlock Holmes derrière, le vrai Sherlock Holmes, en chair et en os. Hein. Donc la pierre de Mazarin, c'est un joyau qui a été dérobé. La géologie, en fait, la géologie, c'est surtout de la pédologie, surtout des sols. Sherlock Holmes est capable, en regardant une tache de boue, ou en l'analysant, mais même en la regardant, de vous dire de quel coin de Londres ça vient. Hein. Voilà. Quand quelqu'un arrive, il dira bah, vous avez pris un cab à Whitechapel parce que voilà, vous avez de la boue jaune, ou alors vous étiez le long des docks. Bon, c'est un petit peu acrobatique. Il y a un ouvrage qui s'intitule Les aventures géographiques de Sherlock Holmes, qui justement situe cela dans Londres, dans le Londres victorien. Alors, on est à une époque intéressante, l'époque victorienne, toujours si on se reporte à l'histoire. Puis il y a eu la première carte de géologie d'Angleterre. Hein, et la carte de France, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, était postérieure. Et vous avez un ouvrage, vous voyez, la carte qui a changé le monde, c'est William Smith, un nom qui est typiquement britannique, bien sûr, qui a dressé la première carte géologique d'Angleterre, hein, sur plusieurs feuilles. Et vous avez cette fameuse carte géologique, l'original à gauche, hein, qui rappelle, alors nos cartes géologiques sont beaucoup plus colorées, voilà, mais la première carte géologique d'Angleterre, c'était vraiment quelque chose de très important. Alors, Sherlock Holmes est capable donc de faire des identifications de sol, de gravier et autres. Dans les Saints Pépins d'Orange, il indique quelle est la zone de Londres d'où vient son client. Donc vous voyez, c'est quand même assez fort. Dans le Pied du Diable, il trouve du gravier sous une fenêtre, donc il en tire un certain nombre de déductions. Dans le Pouce de l'ingénieur, il identifie une terre particulière qui est de la terre à Foulon, donc il dit ben voilà, c'est quelqu'un qui se sert de, enfin, qui utilise tel procédé technologique, je ne me souviens plus lequel, mais d'ailleurs, la terre à Foulon qu'on trouve, voilà. Les mathématiques, alors on trouve bien sûr beaucoup de logique dans Sherlock Holmes, hein, une logique qui n'est pas uniquement en mathématiques, qui est la logique de l'enquêteur, mais il y a quelquefois les mathématiques qui sont introduits en tant que tels. Hein. Alors, Sherlock Holmes, via la plume d'Arthur Conan Doyle, fait allusion à Euclide et la logique dans différentes aventures, notamment dans la fameuse étude en rouge et dans le signe des quatre. Hein. Dans le signe des quatre, on parle d'Euclide et de la logique. Dans les six Napoléon, une autre aventure, il y a une allusion au calcul des probabilités. Donc là, on est effectivement en pleine effervescence mathématique. Dans Flamme d'argent, Silver Blaze, donc Sherlock Holmes est capable de calculer la vitesse d'un train en repérant les poteaux télégraphiques, hein, qui est le long de la voie, et en regardant sur sa montre, et il dit on avance à telle vitesse. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et dans le rituel des Musgrave, il utilise la géométrie et la règle de 3. Là aussi, il y a un calcul qui est assez fort. Quelquefois, c'est même un petit peu difficile à suivre. Alors, ces mathématiques nous conduisent au fameux professeur Moriarty qui, lui, a obtenu son poste universitaire, son poste de professeur, parce qu'il a fait une publication qui est un traité sur le théorème binomial de Newton. Vous avez ce fameux théorème binomial en dessous. Alors, je ne suis pas mathématicien, hein, mais ça ressemble beaucoup à... ça ressemble beaucoup au théorème de Fermat et compagnie avec voilà, les exposants. Bon, donc voilà, bon. Comme aujourd'hui, à l'époque, il fallait publier si on voulait avoir des postes universitaires intéressants. Hein. Et Moriarty, lui, il est non seulement mathématicien, mais il est aussi astronome. Et il a écrit un ouvrage sur les astéroïdes, un ouvrage qui s'intitule « La dynamique d'un astéroïde ». Il l'a rendu également célèbre, la dynamique d'un astéroïde, et Sherlock Holmes dit qu'on vole dans les hautes sphères de la mathématique pure. Alors, les ouvrages sur les astéroïdes, il y en a un certain nombre. On s'est posé la question de qui s'est inspiré Conan Doyle pour ce personnage. Alors, il a connu des mathématiciens. Alors, à son époque, bien sûr, il y avait à la fois des mathématiciens célèbres et des astrophysiciens, des astronomes. En particulier, il y avait Sir Simon Newcomb qui avait publié des ouvrages sur les astéroïdes. Et puis, il connaissait, alors c'était même un ami, hein, Alfred Dreyson, qui a popularisé un certain nombre de... Enfin, il était vulgarisateur surtout. Et vous voyez, à droite, une de ses publications sur les étoiles fixes. Donc, il a fait de l'astronomie populaire. Et il y a eu un échange de lettres, ça on le sait, entre Arthur Conan Doyle et Alfred Dreyson, qui était d'ailleurs reçu chez Conan Doyle, donc il semble qu'il y a eu ici une proximité entre les deux hommes. Ce qui explique qu'on retrouve dans certaines aventures les aspects astronomiques. Alors, dans le rituel des Musgrave, là c'est tout à fait caractéristique, puisque c'est un calcul compliqué qui permet à Sherlock Holmes d'obtenir un certain nombre de données grâce à des calculs qui mettent en œuvre la position du soleil et l'ombre des arbres, l'ombre portée, donc grâce à la longueur de l'ombre portée, hein, la position, position du soleil, il arrive à tirer un certain nombre de déductions. Alors, dans l'interprète grec, il y a une discussion savante au début sur l'obliquité de l'écliptique, voilà. Dans l'interprète grec, c'est complètement gratuit, mais ça montre quand même que Sherlock Holmes connaît les mathématiques et l'astronomie. Alors, ce qui bat en brèche complètement l'espèce de petit questionnaire que lui a fait, enfin, que ne lui a pas fait subir, mais que donne Watson au début, Watson qui est son biographe, si vous lisez la première aventure, il liste donc toutes les disciplines scientifiques dans lesquelles Sherlock Holmes... et expert, puis celle où il connaît rien. Et en particulier, en astronomie, je crois qu'il met nul. Enfin bon, donc ça dément complètement. Et Sherlock Holmes dit d'ailleurs que la Terre tourne autour du Soleil ou que ça soit l'inverse. Moi, ça, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'utilise que les connaissances qui me servent, qui servent à mon métier. Alors, ça, d'ailleurs, c'est une théorie intéressante. Bon, les neurobiologistes ne l'ont pas adoptée. Mais c'est une théorie intéressante parce que selon Sherlock Holmes et selon donc peut-être Conan Doyle, le cerveau c'est comme un grenier, hein, c'est l'image qu'il utilise dans cette aventure. Hein. Il dit à Watson que Sherlock Holmes donc dit à Watson que le cerveau c'est comme un grenier. Si c'est mal rangé, on ne s'y retrouve pas. Si vous mettez beaucoup de choses inutiles, eh bien vous aurez plus de place pour mettre les choses utiles. Donc il dit, moi je mets que les choses utiles. Le fait que la Terre tourne autour du Soleil ou que ça soit l'inverse, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je ne mets pas ces connaissances dans mon cerveau. Je mets que ce qui me sert à quelque chose. Alors, les neurobiologistes diraient que ça ne fonctionne peut-être pas complètement comme ça. De temps en temps, je ne sais pas vous, mais moi, je me pose la question. Je me dis, tiens, bon, mon épouse me dit, tout ce qui est inutile, tu le retiens bien. Et c'est vrai, bon, voilà. Moi, j'ai un don pour retenir tout ce qui est inutile. Quelquefois, c'est handicapant au cours des études. Mais voilà. Bon, alors, donc, il y a une discussion sur l'obliquité de l'écliptique avec une référence astronomique très claire. Hein. Bon, l'anatomie. À l'époque victorienne, il y a des anatomistes et puis des paléontologues qui font progresser cette discipline. Hein. cette discipline, a notamment le fameux Richard Owen, hein, qui a, vous voyez, Richard Owen, qui était un naturaliste victorien, qui a fait de la paléontologie. Il est en train de tenir un os d'un mammifère gigantesque disparu. Donc il y a eu des anatomistes et des paléontologues célèbres à cette époque. Hein. Alors, un élément intéressant, dans les saints pépins d'orange, dans les cinq pépins d'orange, alors ces pépins d'orange, en fait, c'est le Ku Klux Klan qui donne un avertissement, c'est-à-dire qu'il met des pépins d'orange, il les envoie dans une enveloppe, et ça veut dire, attention, tu vas bientôt mourir si tu continues à nous embêter. Donc si un jour vous recevez des pépins d'orange dans une enveloppe, vous vous méfiez, hein, c'est pas votre voisin qui vous a fait une farce, hein, c'est, voilà, c'est grave, faut vous inquiéter. Donc dans les cinq pépins d'orange, il y a une allusion à Cuvier. Il y a une allusion à la logique de Cuvier. Alors moi, je lis le passage, d'ailleurs, à mes étudiants, quand je leur parle de l'histoire du muséum. Hein. La logique de Cuvier, c'est-à-dire que Sherlock Holmes dit, de même que Cuvier, par un certain nombre d'éléments anatomiques, pouvait reconstituer la totalité de l'anatomie, eh bien, le logicien, avec un certain nombre d'éléments de la réalité, arrive à reconstruire le crime. Et voilà, donc il y a eu une allusion ici de Cuvier. Alors Cuvier, effectivement, était célèbre parce qu'il arrivait à reconstituer des éléments anatomiques d'animaux disparus, parce que bien sûr, vous savez que souvent, les squelettes ne sont pas complets, hein, malheureusement. On peut avoir qu'une patte, un crâne et tout, mais avec les... voilà, il arrivait à déduire un certain nombre de parties de l'anatomie, sachant qu'il y avait une logique. Hein. Un herbivore, bah, il va avoir telles dents qui seront développées, et puis pour marcher, bah, pour s'élever jusqu'aux arbres, il faudra qu'il ait un cou avec également une colonne cervicale qui soit costaud, etc. Bon, donc là, c'est la logique. Alors, on va retrouver l'anatomie, pas très souvent, mais on le trouve dans le signe des quatre, où il y a eu une allusion... au travail et à le travail qui est capable de modifier la forme des mains, donc ça nous paraît aujourd'hui bien sûr assez banal, et Sherlock Holmes va déduire donc, en regardant les mains d'une jeune femme, il va trouver quel est son métier. Hein. Même chose dans la cycliste solitaire, il va déduire le métier de la jeune femme, il va dire, bon, ben, vous êtes musicienne, bon. Dans Flamme d'argent, il y a une utilisation, enfin il y a une allusion aux muscles et aux tendons du cheval. Dans la boîte en carton, un individu va recevoir carrément une oreille dans une boîte pleine de sel, parce que probablement il n'y avait pas de formol, donc celui qui a envoyé n'utilisait pas le formol. Donc là, c'est aussi un avertissement. Donc la boîte en carton, c'est assez sinistre. Hein. C'est une dame qui reçoit une oreille dans une boîte pleine de sel. Dans l'aventure de Chausscombe Hall Place, on parle d'un condyle de fémur, donc une allusion anatomique assez claire. La physique, alors oui, donc pratiquement on trouve toutes les disciplines scientifiques. Hein, voilà. Alors, dans les plans du Bruce Partington, il y a un individu qui va tomber sur un wagon du métro. Ou un wagon, oui, je crois que c'est le métro londonien ou un train, bon, peu importe. Et d'après un certain nombre de considérations sur le principe d'inertie, la vitesse, les frottements, Sherlock Holmes va déduire d'où il est tombé. Il va dire, bon, bah, il n'a pas été tué effectivement à proximité du train, mais il a été tué sur un surplomb de la voie et ensuite le cadavre est tombé. Donc là, il y a une allusion très claire à la physique. L'optique avec le pince-nez en or, notamment, où Sherlock Holmes va montrer que, effectivement, en regardant les verres, vous savez qu'en regardant les verres, on peut déduire si ce sont des verres de myope ou d'hypermétrope. Hein. C'est assez simple, d'ailleurs, il suffit. Vous enlevez vos lunettes, hein, vous mettez le doigt derrière les verres, hein, et vous voyez tout de suite si c'est dans des lentilles convergentes ou divergentes. Hein. Si le doigt est plus petit, c'est des lentilles divergentes, c'est des lentilles de myope. Si le doigt est plus gros, c'est des lentilles convexes, c'est des lentilles d'hypermétrope ou de presbyte. Bon, alors donc là, c'est un petit peu, si vous voulez, une expérience comme celle-là que va faire Sherlock Holmes dans l'aventure du pince-nez en or. C'est une dame qui a un pince-nez, et il déduit d'ailleurs qu'elle a un nez assez fort, parce que les branches du pince-nez sont écartées. La loupe intervient dans un tiers des récits. Donc Sherlock Holmes utilise beaucoup la loupe pour regarder les traces, les cendres de cigarettes et autres. Alors, autres éléments, bon, il y a le microscope dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'aventure de Chausson Votre Place, au début. Et c'est déconnecté d'ailleurs de l'aventure, hein. C'est Sherlock Holmes qui demande à Watson de regarder dans le microscope. Dans Les Hommes dansant, il y a une discussion sur la diffusion des gaz, hein. Il y a eu une explosion, un attentat, donc voilà. Il va y avoir une allusion aux lois de la diffusion des gaz. Dans Le Chien des Baskerville, utilisation par un personnage d'un télescope, hein, un personnage qui est un voyeur en quelque sorte, utilise un télescope. Vous avez ici donc l'image originale. Donc ça c'est de l'optique. La zoologie, eh bien, il y a René Réhouven qui est un romancier qui a écrit des nouvelles intéressantes, qui a écrit des nouvelles de type Sherlock Holmes, hein, qui sont très conformes à l'écriture de Conan Doyle, dont je vous recommande la lecture d'ailleurs. Il a écrit aussi d'autres romans, notamment sur Monte Cristo, sur voilà, qui sont des romans policiers ou des romans de terreur. Bon, il a écrit aussi d'autres romans qui ne sont pas des romans historiques, hein. Il a beaucoup écrit, et en particulier, il a publié un bestiaire de Sherlock Holmes. Hein. On trouve effectivement beaucoup, un certain nombre d'animaux, je dirais pas beaucoup, mais un certain nombre d'animaux dans Sherlock Holmes. Alors vous avez les chiens qui ont déjà été évoqués, le fameux chien des Baskerville, hein, le châtiment de Hugo de Baskerville, l'ancêtre. Hein. Alors également, on trouve une méduse dans la crinière du lion, hein, la fameuse Cyanea capillata, la crinière du lion. Donc en fait, on s'aperçoit que le tueur n'est pas un assassin, mais c'est une méduse. Et ça laisse des traces. Hein. Vous savez que ça a des cellules urticantes, les méduses. Et là, en fait, il y a des filaments urticants qui sont capables de tuer quelqu'un parce qu'il y a une inoculation du poison, hein, par toutes les cellules urticantes, qu'on appelle les clinocytes. Hein. Alors en bas, vous avez donc un individu qui rentre et qui est en train de mourir, parce que enfin, il va s'en sortir quand même, mais voilà. Il revient de la plage, il revient de se baigner, et voilà. La pensionnaire voilée, il y a le fameux lion qui lui saute dessus, qui va la défigurer à coups de griffes. Hein. Alors c'est les griffures des grands fauves, les blessures des grands fauves sont très dangereuses, non seulement parce qu'elles sont invalidantes, mais surtout parce qu'elles sont inoculantes. Elles inoculent des germes, et c'est surtout ça qui est dangereux. Ce qui fait d'ailleurs que les griffures de chat sont très dangereuses aussi. Si vous avez un chat chez vous, méfiez-vous, parce que c'est un animal qui a des griffes rétractiles, donc elles sont très, à la différence de celles du chien, elles sont très aiguës, et c'est comme s'il vous inoculait des germes particuliers. Il y a la maladie des griffes du chat, hein, c'est pas un mythe. Et tu as certains germes, puis ça inocule des pasterelles et autres germes. Donc méfiez-vous des félins. Voilà, c'est très dangereux, non seulement parce que ça donne immédiatement une blessure qui est très profonde, mais en plus ça inocule des germes. Donc voilà, la pensionnaire voilée. Alors la bande mouchetée, ça c'est une aventure, je ne vous cache pas, qui m'a longtemps hanté, hypnotisé, donné des cauchemars. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui veut hériter, et il tue ses deux filles, enfin, il arrive à assassiner une de ses deux filles, et l'autre s'en sort grâce à Sherlock Holmes, parce que il a, je dirais, pas apprivoisé un serpent, mais voilà, il sait comment le faire descendre par un petit orifice dans une chambre, le long d'un mur, le long d'un cordon de sonnette d'ailleurs, plus précisément, hein. Et il joue d'ailleurs un air qui fait que le serpent devient furieux et puis attaque. En fait, c'est une vipère qu'on trouve en Inde. Une vipère des sables ou je sais pas quoi. C'est un serpent très venimeux. Alors en fait, Sherlock Holmes se rend compte que le cordon de sonnette n'est relié à aucune sonnette. Donc ça lui met la puce à l'oreille, si j'ose dire, et puis ensuite, bon, bah, il va veiller seul dans la chambre, il va envoyer la deuxième fille du médecin criminel coucher ailleurs, et il va taper sur le serpent quand il va jaillir de son orifice. Alors le serpent va se retourner contre le médecin criminel, docteur Roylott, et il va le tuer. Donc il va trouver le médecin criminel avec cette fameuse bande mouchetée. Alors on en vient à cette bande mouchetée, en fait, tout simplement. La première fille qui était morte avait octé et dit « j'ai été tué par une bande mouchetée ». En fait, c'est parce que le serpent est un serpent moucheté, et c'est cette vipère, donc très dangereuse, qui a des mouchetures sur son, sur ses écailles. Hein. Alors le docteur criminel, là, c'est en plus quelqu'un d'atrabilaire, il a cogné un des habitants du village, et puis il élève des... Vous avez en bas dans la gravure un singe, hein. Il y a un singe qui se promène, donc il y a toutes sortes d'animaux qui se promènent dans, dans sa propriété. Il revient des Indes. Là, c'est le monde victorien, bien sûr. Retour des Indes. Ah, pardon, excusez-moi. Pour le rat de Sumatra, ouais, bah, vous l'avez vu. En fait, c'est une aventure apocryphe, et ça a été... Il y a une petite flèche, semble-t-il, où on peut revenir en arrière. Non, c'est... Dommage. Bon. Alors, la flèche, que je la trouve... Voilà. Voilà. Le rat géant de Sumatra. Bon. Alors, il y a un certain nombre d'aventures durant lesquelles Sherlock Holmes fait allusion, ou plutôt son biographe, hein, qui est en fait Watson, et qui est en fait la plume de Conan Doyle, fait allusion à des aventures... qui ont mis en scène des animaux. Alors, les auteurs de romans policiers se sont emparés de ces aventures. On est toujours frustré quand on les lit, parce qu'on se dit, bon sang, mais voilà, ils nous en parlent et puis ils ne le racontent pas. Alors, ces aventures ont été ensuite écrites en particulier par René Réhouven et puis d'autres auteurs. Et vous avez une aventure ici, on peut l'acheter par Internet, vous savez, c'est ces bouquins vite reliés, vite envoyés, mais le texte, le texte est pas mal. Hein. Donc, sur le rat géant de Sumatra, voilà. Il fait allusion également à quelqu'un qui aurait vu un verre que la science ignorait, donc on met en scène aussi dans une autre aventure ce verre. Voilà. Alors, la pathologie, qui est donc la science des maladies, hein, pathologie, science des maladies, et non pas maladie, aujourd'hui c'est devenu dans le langage courant, un peu synonyme de maladie. On dit une pathologie rénale, une pathologie cardiaque. En fait, on ne devrait pas dire ça du tout. Hein. C'est de l'abus de sémantique. Hein. La pathologie, c'est la science qui étudie les maladies. On doit dire une maladie. Mais effectivement, quand on dit une pathologie rénale, ça fait plus élégant que de dire une maladie rénale. Donc maintenant, non seulement les médecins, mais tout le monde dit une pathologie cardiaque. Mais en fait, voilà. Alors, il y a... la parenthèse est enfermée sur ce point de sémantique. Hein. Donc on trouve un certain nombre d'allusions à des maladies. Dans le détective agonisant, eh bien, il y a une allusion à des maladies bactériennes qui sont inoculées parce que le criminel envoie à sa victime une boîte qui est fermée. Alors la victime essaye d'ouvrir le couvercle et puis elle force sur le couvercle parce qu'il est dur à ouvrir et elle se pique. Et en fait, il a enduit le piquant de culture bactérienne, et sa victime ensuite va mourir d'une maladie, et on ne fait pas le lien entre la boîte qui a été reçue, entre le colis mortel et puis la mort de l'individu. Hein. Donc là, Sherlock Holmes va se faire passer pour un agonisant, de manière à tromper son ennemi, qui va venir le voir pour le narguer. Alors, il trompe même Watson, il dit « Watson, il y a une seule personne qui peut me sauver, c'est ce monsieur, c'est un spécialiste, c'est pas un médecin, mais c'est un spécialiste des maladies tropicales. » Et l'autre arrive, et puis, bon, bien sûr, je vous raconte pas l'histoire, mais il va être démasqué. Hein. Il va être démasqué, et donc, voilà. Ce sont des maladies tropicales. Le soldat blanchi, c'est aussi une aventure durant laquelle... soldat de retour toujours des Indes hein, a rapporté une maladie qui est une maladie assez bizarre qui donne un faciès blanchâtre. Alors la météorologie, bon, dans Boscombe Valley, j'ai écrit la scène de crime attendra parce que Sherlock Holmes décide que voilà, il ne fait pas le temps qu'il doit faire, donc on va attendre que la pluie se calme ou que. Bien, donc vous voyez, en conclusion, j'ai donné quelques exemples extraits de différentes disciplines. On peut trouver dans ces aventures presque toutes les disciplines académiques, hein, depuis les sciences dures, les mathématiques, la physique, la chimie, jusqu'aux sciences humaines et sociales, hein, en passant par les sciences de la vie, la biologie, la zoologie, etc. Il y a peu de disciplines qui sont absentes. La botanique, on ne trouve pas beaucoup de botanique, hein. Mais j'en ai sûrement bien sûr oublié. J'irai en conclusion que ces aventures sont toujours d'actualité. Je vous en parlais en introduction déjà, en vous disant qu'il y avait des aventures sur qui ont été des aventures apocryphes, soit des romans, soit des séries policières, des séries télévisées. Alors il y a des séries télévisées qui sont très fidèles au canon, hein. D'autres qui le sont moins, mais qui peuvent être de qualité. Sherlock, c'est bien joué. C'est pas, ça se passe à notre époque, mais ça respecte, je dirais, avec des instruments modernes, je dirais, avec l'ordinateur, avec tout ça, ça respecte quand même l'esprit de l'œuvre de Conan Doyle. Et puis la dernière arrivée en date, c'est Elementary. Et là, il y a une dame qui est Miss Watson, vous voyez, qui est la charmante Lucy Liu, une actrice donc chinoise, voilà, qui joue le rôle de Watson, le rôle du docteur Watson. Alors c'est son agent de probation, c'est-à-dire que Sherlock Holmes est cocaïnomane, je vous l'ai dit. Donc là, en fait, il est drogué et il a un agent de probation, c'est plutôt une... je ne retrouve pas le terme, bon voilà. C'est une colocatrice qui va veiller à ce qu'il ne s'administre pas de LSD ou d'autres stupéfiants. Hein, voilà. Donc c'est pas un agent de probation, c'est une marraine. Voilà. C'est une marraine de sevrage. Bon, c'est un petit peu speed, hein, c'est en train de passer. Alors, j'ai fait une petite conférence sur Sherlock Holmes aux étudiants de notre école doctorale, puis quand je leur ai présenté la diapo, ils m'ont dit « Sur quelle chaîne ça joue ?» Bon, c'est sur la 6, voilà. Sur la 6, c'est vendredi soir, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez le regarder, c'est la veille du week-end. Bien, je vous remercie de votre attention. Je peux vous faire passer le micro s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires. Ça va, j'ai pas été trop rapide. Bon, alors là, oui.
Le personnage, oui, contre Arsène Lupin, donc Gaston Leroux, là, qui est utilisé aussi, c'était à peu près, enfin je ne sais pas quand c'était, au début du siècle.
Oui, tout à fait. Donc il y a Maurice Leblanc qui a écrit Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Voilà. Donc c'est. Alors Arsène Lupin, c'est aussi. Ça pourrait aussi être faire l'objet d'une étude éventuellement pour retrouver la science. Vous avez tout à fait raison. Alors là, il n'est pas à son avantage, Herlock Holmes. C'est le Britannique Rougeau, qui est assez brutal, qui est. Voilà. Et, non mais vous avez tout à fait raison. Maurice Leblanc qui vivait donc à la belle époque. Hein, ouais. Les Arsène Lupin, d'ailleurs, sont toujours des best-sellers. Hein. En livre de poche, vous trouvez les Sherlock Holmes, les Arsène Lupin. Alors ça, c'est indémodable. Hein. Vous allez à la FNAC ou dans n'importe quelle librairie, c'est réédité. Voilà. C'est même d'ailleurs assez intéressant. J'en discutais avec un collègue dans notre labo qui, lui, est un passionné de Sherlock Holmes. Hein. Lui, il est mathématicien, il travaille sur l'histoire des maths. Donc, mais c'est un passionné de Sherlock Holmes. Et on se disait, mais comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, il y a des séries télévisées tout le temps. Enfin, il y a une véritable fascination, hein, pour ce personnage. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Les deux jeunes filles, là, qui viennent de l'ENSIB, non? Pas du tout? D'accord. Vous êtes de quelle... de la fac? Ah bah parfait, merci. Ah ben c'est intéressant donc. Très bien. Bon, ça. C'est OK. Notre école doctorale est à Lyon 2 d'ailleurs. C'est l'école EPIC. Donc mon labo est rattaché à l'école EPIC. Mais vous savez que ça a changé les écoles doctorales maintenant. Ça... Donc notre école est à Lyon 2 et voilà. Et notre directeur d'école doctorale est un passionné d'ailleurs de romans policiers. Donc on s'entend bien sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai que c'est un petit peu tard. Oula, oui. Bientôt 19h. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, donc, il y a une autre, on a une autre conférence ici. Ah oui, c'est sur Harry Dixon. Alors, moi, je l'ai faite dans un autre cadre. Vous l'avez déjà vu. On l'a fait aussi à l'ENSIB. Hein. C'est ça, je me trompe pas. Hein, d'accord. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, donc c'est le même type d'analyse d'aventure. Ouais, c'est genre, ouais. C'est genre. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps, je l'ai faite à l'université catholique. Et bon, je la refais là parce qu'on fait un truc sur les romans policiers. Donc. C'est pareil, dans genre, on trouve des tas de choses. Oui, vous savez, ça tient sur quelques pages, vous pouvez les avoir sur internet, par exemple, vous verrez, ça tient quand c'est sur deux colonnes, ça tient sur quelques pages. Ouais. Les nouvelles, si vous voulez, en édition de poche, les romans, ça vous fait 4 livres de poche double. Hein.